midi en temps universel. Il est 13h ici à Paris. RFI Midi se poursuit avec tout de suite le journal de Florent Guignard. Bonjour Florent.
Bonjour Anne, bonjour à toutes et à tous. À la une, les premières décisions de Donald Trump. Dès son retour à la Maison-Blanche, le retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat, la chasse aux immigrés clandestins, le retrait aussi de l'Organisation mondiale de la santé. Cette élection, ce retour de Donald Trump à la Maison-Blanche suscite des réactions partout dans le monde. Les Européens s'inquiètent notamment de l'influence d'Elon Musk, l'homme fort de la nouvelle administration américaine, pendant que la Chine et la Russie mettent en scène leur entente très cordiale. Également à la une de l'actualité en France, la mort d'un cinéaste du XXe siècle. Bertrand Blier, il avait 85 ans, l'auteur notamment des valseuses ou encore de tenues de soirée.
Les États-Unis font marche arrière dès le retour de Donald Trump au pouvoir.
Et oui, l'histoire se répète. Donald Trump revient à la Maison-Blanche et se fiche de la planète bleue comme il l'avait fait lors de son premier mandat. L'homme qui ne jure que par les énergies fossiles, le pétrole et le gaz de schiste, a signé hier, quelques heures après son investiture, le décret qui acte la sortie des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat. Un accord, on le rappelle, qui vise à limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, au mieux, au pire, à 2 degrés pour que la planète reste vivable. Jeanne Richard, Donald Trump a donc tenu sa promesse.
Oui, le décret était prêt depuis des mois. Donald Trump n'a eu qu'à le signer. Le retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat n'est donc pas une surprise. Cela reste une mauvaise nouvelle pour le multilatéralisme et pour la planète. Car si Donald Trump a beau dire que le changement climatique est, je cite, un canular, il n'en est pas moins une dure réalité pour plusieurs milliards de personnes dans le monde touchées par des sécheresses, des inondations, des feux ou des cyclones toujours plus intenses et fréquents. La procédure de retrait auprès des Nations Unies va prendre un an pour être effective, mais au final, sans les États-Unis, le deuxième plus gros émetteur de gaz à effet de serre de la planète et avec une politique américaine axée au contraire sur le forage de pétrole et de gaz, les efforts des autres pays du globe seront sérieusement ralentis, surtout si d'autres dirigeants climato-sceptiques sont tentés d'emboîter le pas à Donald Trump comme l'Argentin Javier Milei par exemple.
En attendant, Jeanne, ce retrait de l'accord de Paris fait réagir.
Le ministère des Affaires étrangères chinois s'inquiète de cette annonce. En réponse, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, veut tendre la main à la Chine. La première fois que les États-Unis se sont désengagés du multilatéralisme climatique, ils n'ont pas réussi à faire échouer la coopération internationale. Et avec ou sans Trump, la transition énergétique des grandes puissances est bel et bien enclenchée. Un rapprochement UE-Chine ou Royaume-Uni-Chine semble donc être une option sur ce thème, le climat.
Jeanne Richard du service climat et environnement de RFI.
Et on parlera de l'avenir de ces accords de Paris pour le climat dans quelques minutes avec notre invité directeur général de l'Institut du développement durable et des relations internationales. Il y a eu donc cette décision concernant les accords de Paris et en tout près d'une centaine de décrets signés hier par Donald Trump.
Et il y en a un qui concerne directement des millions de personnes aux États-Unis, les sans-papiers, les immigrés clandestins. Donald Trump veut les expulser par millions. Il abroge le droit du sol et il déclare l'état d'urgence national à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Alors, ce stop aux immigrés aura-t-il des impacts sur l'économie américaine? Voici l'analyse de Maxime Chervaux, membre de l'Institut français de géopolitique.
C'était déjà le paradoxe du premier mandat où, en l'espace de quelques années, il avait réduit le nombre d'entrées d'immigrants aux États-Unis à peu près 10 000 personnes, 11 000 personnes, je crois, de mémoire, alors qu'il était approximativement de 100 000 personnes sous Barack Obama. Et c'est quelque chose qui avait, en tout cas, donné le sentiment de marché parce que l'économie américaine, jusqu'au début de la crise de la pandémie, était en surchauffe presque à un certain moment, mais en tout cas marchait très très bien. Donc c'est un argument qui ne marche pas de son point de vue pour l'instant. Là où il va réellement y avoir un débat, parce qu'il a mis hier stop à grosso modo toutes les entrées d'immigrants aujourd'hui aux États-Unis, au process même d'ailleurs de leur dossier, ce qui va vraiment jouer, ça va être les personnes qualifiées et l'immigration des personnes qualifiées dans l'économie américaine, sur lesquelles il y a un débat entre la branche Musk et Tech de sa coalition et la branche beaucoup plus traditionnelle qui, elle, refuse l'arrivée également de personnes qualifiées dans le marché du travail américain.
Maxime Chervaux de l'Institut français de géopolitique, il était invité ce matin de RFI.
Et on poursuit la litanie des décrets et des déclarations de Donald Trump dès le premier jour de son mandat.
Cuba réintègre la liste des États terroristes. Donald Trump veut aussi récupérer le canal de Panama. Et puis hier, il a aussi gracié quelques 1500 de ses partisans qui avaient attaqué le Capitole à Washington le 6 janvier 2021, alors que Donald Trump refusait de reconnaître sa défaite face à Joe Biden. Un décret signé alors que les milices d'extrême droite défilaient dans le froid de Washington et à peu près au même moment aussi où Elon Musk, survolté devant une foule en délire, faisait à deux reprises le salut nazi, ce qu'il a ensuite démenti très mollement. Elon Musk, c'est l'homme fort de cette nouvelle administration Trump, un homme qui se mêle de tout, y compris de la politique en Europe. Et justement, ce matin, le Parlement européen débattait des ingérences étrangères et des manipulations sur Internet, alors que tout récemment, Elon Musk, le propriétaire de X, anciennement Twitter, a apporté son soutien à l'extrême droite allemande. Envoyé spécial à Strasbourg où siège l'Europarlement, Anastasia Becchio.
L'Europe n'est pas le Far West. L'expression est revenue à plusieurs reprises dans la bouche d'élus de gauche ou du centre notamment, inquiets des agissements des patrons des géants du numérique. L'eurodéputé vert David Cormann.
Avec l'arrivée au pouvoir de Donald Trump et des trilliardaires, le plus connu étant Elon Musk, il y a un échelon de plus de franchi dans une attaque que je considère impérialiste de la part des intérêts américains contre l'Union européenne.
L'Union européenne s'est dotée d'une loi sur les services numériques, le DSA. Si une majorité d'élus appellent à son application plus ferme, l'extrême droite est sur une autre ligne. Virginie Joron du groupe des Patriotes pour l'Europe.
L'obsession de nombreux leaders en France et en Europe contre Musk et sa supposée emprise sur nos démocraties en dit long sur ce que nous sommes devenus. En fait, cette volonté de renforcer le DSA, ce n'est pas pour protéger les consommateurs européens, mais pour contrôler le bulletin de vote des électeurs.
À l'inverse, la députée Renaissance Fabienne Keller estime qu'il faut agir rapidement.
La dérégulation laisse place au discours de haine, au contenu pédopornographique, terroriste, misogyne et raciste. Ne nous trompons pas, Elon Musk et Mark Zuckerberg ne défendent pas la liberté d'expression. Ils veulent seulement véhiculer leur propre idéologie.
Le représentant de la Pologne qui préside le Conseil de l'Union a reconnu que la loi sur les services numériques était aujourd'hui mise à l'épreuve. Anastasia Becchio, Strasbourg, RFI.
Autre décision annoncée hier par Donald Trump, la décision de sortir les États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé. Là aussi, ça suscite beaucoup de réactions.
Et oui, Donald Trump, l'homme qui a nommé un ministre de la Santé anti-vaccin. L'OMS dit espérer que les États-Unis vont revoir cette position. L'Union européenne se dit inquiète. Et puis la Chine, eh bien la Chine, elle plaide au contraire pour un renforcement de l'OMS. Elle prend la place vacante en quelque sorte. RFI Pékin, Cléa Broadhurst.
La Chine affiche une opposition claire aux récentes politiques de Donald Trump, cherchant à se positionner en leader mondial du multilatéralisme, de l'action climatique et de la santé globale. En soutenant l'OMS après le retrait des États-Unis, Pékin mise sur la coopération internationale en santé dans un contexte post-pandémique. Ce geste renforce son influence dans la gouvernance mondiale, avec des possibilités d'orienter les priorités de l'OMS vers ses propres intérêts. Concernant le climat, la critique chinoise du retrait américain de l'accord de Paris s'accompagne d'un engagement fort, atteindre la neutralité carbone d'ici 2060. Cette ambition place la Chine au centre de la diplomatie climatique, attirant le soutien de l'Union européenne et d'autres pays engagés. Parallèlement, la Chine consolide son rôle dans les technologies vertes, comme les panneaux solaires et les véhicules électriques. Mais ces positions risquent d'alimenter les tensions avec Washington, notamment sur le commerce et la sécurité régionale. Pour Pékin, cette stratégie vise à renforcer son influence mondiale et à attirer les pays en quête d'alternatives à la domination américaine. Cléa Broadhurst, Pékin, RFI.
Cléa Broadhurst faisait référence à l'accord de Paris. La Chine qui s'est dit inquiète de la sortie des États-Unis de l'accord sur le climat. La Chine qui fait figure de bon élève et qui le fait savoir avec une annonce ce matin. Nouveau record mondial d'installation d'énergie renouvelable en Chine, panneaux solaires, éoliennes, etc., etc.
On parlait du retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, des réactions qu'il suscite. Il y en a partout dans le monde.
Et notamment au Proche-Orient, où le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou se frotte les mains alors que l'autorité palestinienne s'indigne de la levée des sanctions décidées hier encore par Donald Trump. Sanctions qui frappaient jusqu'alors les colons israéliens accusés de violence contre les Palestiniens de Cisjordanie. En Cisjordanie d'ailleurs ce matin, Une opération de l'armée israélienne lancée à Jenin a tué un Palestinien. Une opération antiterroriste, vient de dire Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien. Et puis à Gaza, le Hamas précise que ce seront 4 femmes, 4 otages israéliennes qui seront libérées samedi dans le cadre du 2e échange d'otages et de prisonniers palestiniens prévu par l'accord de cesser le feu.
En Corée du Sud, première comparution pour le président destitué.
Première comparution devant la Cour constitutionnelle qui doit in fine valider la destitution de Yoon Suk-yeol, votée par les députés. En tout cas, la crise politique sud-coréenne intéresse beaucoup l'ennemi nord-coréen. Qui s'en réjouit? Nicolas Roca a lu la presse de Pyongyang.
La crise politique chez les pantins sud-coréens après une loi martiale fasciste et dictatoriale. Dans son style inimitable, le Nodong Sinmun, quotidien du Parti du Travail de Corée, détaille les étapes qui ont conduit au sort désastreux connu par Yoon Suk-yeol. Retranché dans sa résidence, protégé par des soutiens et des barricades, il finit par être arrêté, approfondissant ainsi, selon le journal, le chaos chez le voisin. L'article souligne aussi le destin tragique des présidents conservateurs, Yoon Suk-yeol étant le 5e à être emprisonné. Il risque la peine de mort, souligne Pyongyang, qui ne précise pas que la dernière exécution dans le pays remonte à 1997. Aucune mention non plus de la défense du président déchu, qui assure avoir déclaré la loi martiale pour lutter contre de soi-disant ingérences nord-coréennes. Voir Pyongyang se féliciter des déboires de Yoon Suk-yeol, un faucon partisan d'une ligne très dure face à la Corée du Nord, n'a rien d'étonnant, mais la nouvelle est traitée en citant la presse étrangère, notamment celle de l'ennemi américain. Une manière de montrer que la décision choque à travers la planète, mais aussi de prendre ses distances avec la Corée du Sud, le plus grand ennemi, selon les mots de Kim Jong-un.
Nicolas Rocard.
Dans l'actualité française, des révélations de RFI en plein procès Sarkozy sur le financement libyen supposé de sa campagne.
La campagne de 2007, Saïf al-Islam Kadhafi, le fils de Muammar Kadhafi, a livré à RFI sa version de l'affaire. Il affirme avoir supervisé lui-même la transmission de 5 millions de dollars en espèces à l'entourage de Nicolas Sarkozy. Les avocats de l'ancien président français démentent ces accusations. Dossier à retrouver sur RFI.fr. Et puis, on attend par ailleurs aujourd'hui le verdict de la cour d'appel sur l'affaire Karachi, son volet financier, dont 2 condamnés en première instance. L'homme d'affaires libanais Ziad Takieddine, qui a fui à Beyrouth, et puis le français Thierry Gobert, proche de Nicolas Sarkozy, sont aussi jugés dans ce procès du financement présumé libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy.
Un narcotrafiquant attendu en France.
Il s'appelle Félix Bangui. Il est le chef présumé d'un des principaux gangs de la drogue à Marseille. Il est donc en cours d'extradition en provenance du Maroc à Valérie Cohen, où il s'était planqué. Il avait été arrêté à Casablanca en mars dernier.
C'est ça. Alors, Félix Bangui, 34 ans, est le patron présumé du gang Yoda, un clan marseillais de narcotrafic qui s'est livré à une guerre sanglante contre le gang rival DZ Mafia pour le contrôle des juteux points de deal. À certains endroits, le chiffre d'affaires pouvait atteindre 80 000 euros par jour. Une guerre qui a finalement tourné à l'avantage de DZ Mafia. Alors, depuis le déclenchement de ces affrontements en février 2023, Félix Bangui résidait au Maroc. C'est donc là qu'il a été arrêté en mars dernier, sur mandat d'un juge d'instruction marseillais, avec la coopération des autorités marocaines. Lors d'une audience, un mois plus tard à la cour de cassation de Rabat, Félix Bangui a accepté d'être extradé vers la France. Il devrait arriver demain, mercredi. Félix Bangui, devenu l'un des plus gros narcotrafiquants, a déjà et souvent connu la prison. D'ailleurs, une autre affaire l'attend en France, qui doit être jugée dans quelques mois, une affaire vieille de 15 ans de trafic de stupéfiants à Marseille.
Valérie Cohen.
Enfin, la mort d'un cinéaste français du XXe siècle.
Bertrand Blier, il avait 85 ans, on a appris sa mort il y a une heure tout juste. 60 ans de carrière, 20 films, et notamment Les Valseuses, Tenues de soirée, des films, Sophie Torlotin, qui ont laissé leur empreinte dans l'histoire du cinéma français.
Oui, un iconoclaste non conformiste, Bertrand Blier s'est attaqué au tabou de la société française et à la notion de moralité. Marqué par l'héritage de son père, l'acteur acteur, Bernard Blier. Il se distingue de ses contemporains de la nouvelle vague par son humour cynique et subversif. C'est avec son deuxième long métrage de fiction, Les Valseuses, comédie érotique autour de deux marginaux en cavale, qu'il se fait un prénom. Frappé d'une interdiction aux mineurs, le film attire plus de 3 millions de spectateurs en salle en 1974 et impose de nouveaux visages, Gérard Depardieu, Patrick Devers et Miu Miu. Il révèle de futurs monstres sacrés ou utilise les acteurs à contre-emploi, comme Michel Blanc que Bertrand Blier dirige dans Tenue de soirée en 1986 dans le rôle d'un travesti amoureux de Gérard Depardieu. Ou encore 2 ans plus tard, Carole Bouquet dans Trop belle pour toi. Immense succès là encore, même si la grossièreté des dialogues et la crudité des séquences font scandale. Le film reçoit le prix spécial du jury au Festival de Cannes, ainsi que 3 Césars. Ces films restent des classiques, même si, revus à la lumière du mouvement MeToo, c'est désormais plus leur aspect misogyne que provocateur qui est mis en avant.
Sophie Torlotin du service culture de RFI, les 13h15 à Paris. RFI Midi continue avec vous, Anne Cantenaire.
Merci Florent Guignard. L'actualité sportive à présent. Bonjour Olivier Pron.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Du foot, rien que du foot, ou presque, aujourd'hui avec le retour de la phase de poule de la Ligue des Champions en Europe. L'avant-dernière journée débute aujourd'hui.
Et 2 clubs français sont concernés dès ce soir à 17h45 temps universel. Monaco reçoit Aston Villa, des Anglais 5e au classement pour l'instant, quand les Monégasques ont eux glissé au 16e rang après 2 défaites à Arsenal. Mais surtout, juste avant, à domicile face au Benfica Lisbonne, un revers alors que l'ASM a mené 2 fois au score qui a laissé des traces sur le rocher. Depuis, Monaco a disputé 10 matchs et n'en a remporté que 2. Il est retombé à la 4e place en Ligue 1 après avoir perdu chez le dernier Montpellier ce week-end. Bref, avant un dernier déplacement à l'Inter Milan dans 8 jours, il est urgent de redresser la barre et de gagner, nous explique l'attaquant Brel Mbolo.
De montrer qu'on est toujours l'équipe qu'on était il y a 2-3 mois. C'est un match de Ligue des Champions. On a un peu la chance de remettre le match contre Benfica qu'on s'est fait un peu prendre, j'ai envie de dire, ici. Mais c'est une opportunité. Une autre opportunité de montrer nos qualités et de chercher une victoire et de changer la tendance. J'ai confiance en mon équipe et dans des moments comme ça, il faut plus travailler, il faut plus faire attention, surtout sur le terrain parce que les petites décisions, ils sont un peu punis par les adversaires. Et c'est juste des petits trucs qu'il faut changer, il faut réaliser et être unis et travailler.
Changer les petits trucs et rester unis. Monaco Aston Villa, 17h45 TU.
Et juste après, un autre club français à l'affiche, Lille, se déplace à Liverpool.
Les Reds, en tête de la Première Ligue et de cette Ligue des Champions, c'est dire le monstre, seule équipe à avoir réalisé le sans faute. 6 matchs, 6 victoires jusqu'ici dans cette C1, 13 buts inscrits, un seul encaissé. La tâche monumentale attend les Dogs, cette tâche monumentale attend les Dogs, surprenant 8e au classement pour le moment, 4 victoires, 1 nul, 1 défaite. Ils sont assurés au minimum de disputer les playoffs ou barrages en français, mais ils peuvent toujours rêver d'une qualification directe pour les 8e de finale après avoir notamment battu l'Atlético et le Real Madrid. Une folie. Gagner à Anfield serait un nouvel exploit, mais le défenseur Bafodédé a quitté parce que son équipe peut s'appuyer sur des certitudes. Elle n'a plus perdu depuis 4 mois.
Jouer mon football, car je pense que ce qu'on fait depuis un certain moment, c'est par rapport à ça déjà. Et ensuite, on verra ce qui va se passer. On va pas s'avancer. On est face à la meilleure équipe d'Europe en ce moment. Donc on va déjà essayer de jouer notre jeu et voir ce qu'il en est ensuite.
Liverpool-Lille, 20h, temps universel.
Et parmi les autres affiches de cette soirée, il y a notamment Benfica-Barcelone.
Le Barça est 2e au classement avec 15 points, tandis que le club lisboète est lui 15e à domicile. Il voudrait faire tomber le club catalan pour assurer sa qualification et sortir vainqueur de ce que l'entraîneur du Benfica appelle une soirée de gala. Bruno Lage.
Ce sont les matchs que nous voulons jouer. Vous savez, il y a un mois, je suis allé avec mes enfants voir le match Barcelone-Paris Saint-Germain. J'étais dans les tribunes. Et maintenant, je vais jouer contre Barcelone. C'est pourquoi je suis heureux d'être dans un grand club. Et Barcelone va aussi trouver le défi très intéressant parce que Benfica est également un grand club. C'est un classique européen et nous vivons pour de grandes soirées comme celle-ci. Notre premier objectif sera d'essayer de le gagner ou alors de prendre au moins 1 point pour nous rapprocher de la qualification. Nous devons bien jouer, nous créer des occasions, nous battre pour gagner le match et nous verrons ensuite si nous parvenons à atteindre cet objectif.
Barcelone à Lisbonne, c'est à 20h TU. Un dernier mot de tennis, choc en quart de finale de l'Open d'Australie en ce moment. Djokovic-Alcaraz, un set partout entre les deux hommes, sa bataille sévère.
Merci Olivier Pron. L'actualité sportive à suivre aussi sur internet rfi.fr. Et nous, tout de suite, on va retrouver notre invité. Pour revenir sur l'une des très nombreuses décisions prises par Donald Trump immédiatement après son investiture, la sortie de l'accord de Paris sur le climat. Deuxième fois, parce que le président des États-Unis avait fait la même chose durant son premier mandat. C'est Joe Biden qui avait ramené le pays dans l'accord. Cet accord, celui qui prévoit de maintenir le réchauffement de la planète en dessous de 2 degrés et si possible en dessous d'un degré et demi, ce qui est pas très bien engagé. Bonjour Sébastien Treyer.
Bonjour.
Vous êtes directeur général de l'Institut du développement durable et des relations internationales. Alors, les États-Unis, hors de ce cadre majeur qui avait été établi il y a 10 ans, en 2015, qu'est-ce que ça a comme conséquence immédiate ?
Je ne suis pas sûr qu'il y ait des conséquences immédiates. Et la première chose que je voudrais dire, c'est qu'en 2017, en fait, ça avait déjà eu lieu dans le premier mandat de Donald Trump. Et la communauté internationale, les autres pays qui étaient signataires de l'accord de Paris, avaient tenu bon et avaient continué à tenir comme objectif de long terme la décarbonation, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, etc., qui sont des points clés, et ça avait même mené la Chine, l'Europe, puis le Japon, la Corée du Sud à être dans une logique d'émulation collective pour décarboner leur économie. Et donc, on pourrait estimer qu'en fait, la résilience de l'accord de Paris va fonctionner de la même manière 8 ans plus tard. Il faut voir quand même que le monde a changé, et ce que je trouve le plus inquiétant, c'est la question des guerres commerciales. C'est-à-dire que la sortie de l'accord de Paris et l'annonce par Trump d'une série de guerres commerciales va beaucoup déstabiliser la dynamique qui avait eu lieu il y a 8 ans et qui avait permis de tenir.
D'autres grands pays pollueurs comme la Chine que vous évoquiez par exemple ?
Non, je pense que la Chine a tout à fait intérêt à garder la dynamique de l'accord de Paris. Ça, je pense que c'est absolument, ça tient assez solidement parce que elle a des capacités industrielles de production de technologies d'énergie renouvelable, photovoltaïque, des batteries électriques, des véhicules électriques, et que donc son avenir économique à elle, c'est de convaincre le reste de la planète de passer à une économie décarbonée. Je pense que l'Union européenne a aussi le même intérêt pour des raisons d'indépendance énergétique, hein, sortir des énergies fossiles, c'est son indépendance énergétique pour l'Europe. Et donc je compte beaucoup sur la Chine et l'Europe pour être le leadership qui va montrer qu'en fait l'accord de Paris continue. Maintenant, est-ce que justement à cause de la guerre des tarifs commerciaux, des tarifs douaniers que va faire Donald Trump, l'Europe va réussir à rester dans cette dynamique-là, et est-ce que ça va pas exacerber les problèmes commerciaux entre l'Europe et la Chine et donc casser toute cette dynamique positive ? Il y a beaucoup d'incertitudes en ce moment à ce sujet, et donc le monde est plus incertain qu'il y a 7 ans, qu'il y a 8 ans pardon, quand Donald Trump était sorti la première fois.
Est-ce qu'il y a un risque de voir d'autres pays plus petits, moins pollueurs peut-être que la Chine, de voir ces pays quitter l'accord de Paris sur le climat ? Parce qu'il y a un certain nombre de dirigeants dans le monde qui sont aussi climato-sceptiques. Je pense par exemple au président argentin. Mais il y en a d'autres.
Ouais.
Est-ce qu'il peut y avoir un effet d'entraînement dans la suite des États-Unis ?
Vous avez tout à fait raison, ça c'est un risque important hein, de voir un certain nombre d'autres pays sortir de l'accord de Paris pour imiter Donald Trump, pour donner le même genre de signal. On a vu d'ailleurs la délégation argentine au milieu de la COP29 à Bakou, là en décembre dernier, la grande conférence sur le climat des Nations Unies, la délégation argentine s'est retrouvée tout à coup suspendue hors de nulle part parce que le président Milei lui avait demandé de rentrer à Buenos Aires. Et donc cette dynamique négative pourrait exister, mais je voudrais quand même souligner qu'il y a des effets, une structure des effets économiques qui est importante en dehors du symbole de se retirer d'une instance de coopération internationale. On a quand même des prévisions probables du fait que la demande en pétrole, par exemple, de la Chine va passer par un pic et va finir par diminuer. Et la demande en pétrole de la Chine, c'est un élément extrêmement important sur le marché du pétrole à l'échelle internationale. Et donc, concrètement, quelle est la traduction de cette sortie de l'accord de Paris si, en fait, les tendances économiques sont quand même de passer à une économie d'après, à un monde où les énergies fossiles seraient moins importantes? Ça me paraît aussi pas tout à fait évident. Et puis, ça joue plutôt en faveur du fait que, même s'il y a une dynamique négative entre pays qui veulent symboliquement sortir de l'accord de Paris, la plupart des autres pays vont continuer à croire à la dynamique positive de l'accord de Paris sur la décarbonation.
Mais ça, cette question du pétrole, c'est aussi un point important puisque Donald Trump ne se contente pas de sortir son pays de l'accord de Paris. Il a aussi répété son intention de forer au maximum pour exploiter toutes les ressources des États-Unis, le pétrole, le gaz. Ça va tout à fait à l'encontre de la sortie des énergies fossiles.
Tout à fait, ça va à l'encontre de la sortie des énergies fossiles, mais je pense aussi que il faut être vigilant, comme je le disais, sur quel est le marché mondial pour le pétrole et le gaz. Ce marché est extrêmement fort aujourd'hui, mais l'électrification des véhicules, qui est quand même quelque chose qui a de bonnes chances d'arriver vu la capacité de la Chine à inonder la planète avec des véhicules électriques, pourrait très bien réduire assez notablement la demande de pétrole. Et donc il se pourrait très bien qu'un certain nombre des paris de Trump ne soient en fait pas les bons. Comme on l'avait vu faire en 2017, une campagne sur le fait qu'il allait sauver l'industrie du charbon aux États-Unis, ce qui en fait était impossible d'un point de vue économique, et ça ne s'est pas passé.
Alors on a aussi observé récemment des reculs en Europe, puisque les 27 ont renoncé à certains points du fameux pacte vert européen. Il nous reste très peu de temps, mais je voulais quand même avoir votre avis sur un point plus général. Est-ce qu'on assiste à une sorte de backlash, de contre-coup après les avancées des dernières années ?
Oui, il y a effectivement un contre-coup. Ce qui me semble très important, c'est que pour beaucoup d'acteurs économiques en Europe, le contre-coup reste quand même plus sur la méthode et la nécessité d'avoir plus de moyens et pas uniquement de la réglementation qui soit mise au service d'une forme de reconversion industrielle vers les industries décarbonées, qui était en fait le principe du pacte vert. C'est plus une revendication de changer la méthode que d'abandonner les objectifs. Mmh. Aujourd'hui, la Commission européenne tient bon les objectifs du pacte vert, la décarbonation de l'économie, ça reste l'horizon de long terme de modernisation de notre économie.
Merci beaucoup Sébastien Treillard d'avoir été en ligne avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Institut du développement durable et des relations internationales. Merci beaucoup. On parlait à l'instant des conséquences pour le climat, de l'inquiétude renforcée par les ambitions de Donald Trump pour l'industrie automobile aussi. Il a promis que les États-Unis allaient donc construire à nouveau des voitures à un rythme dont personne n'aurait rêvé il y a quelques années. Et pour vendre toujours plus dans le pays, le tout sera accompagné, dit le nouveau président, de droits de douane plus élevés pour tout ce qui vient d'ailleurs. Ça pose beaucoup de questions en Afrique du Sud, par exemple, car l'industrie automobile est l'une des plus importantes du pays et surtout, elle est très tournée vers l'export, Valentin Hugues.
L'industrie automobile sud-africaine compte sur les États-Unis. En 2023, c'est plus d'1 milliard d'euros d'exportation. Et si le protectionnisme de Donald Trump pourrait avoir un impact dévastateur pour l'Afrique du Sud, Norman Lamprecht du Conseil économique de l'automobile en Afrique du Sud reste confiant.
Aucun pays n'est autosuffisant. Chaque pays importe et exporte. Je pense qu'il faut être réaliste vis-à-vis de ce qui est possible et de ce qui ne l'est pas. Parce que vous avez toujours besoin d'importer depuis d'autres pays des matières premières pour les véhicules électriques en provenance d'Afrique du Sud, par exemple. Les États-Unis risquent d'être perdants si toutes ces opportunités sont saisies par des pays comme la Chine. Je pense donc qu'il faut vraiment être réaliste et je suis sûr que le président Trump a beaucoup de conseillers à ce sujet.
Reste que Donald Trump affiche une certaine hostilité vis-à-vis de l'Afrique du Sud et les BRICS en général. Et le doute plane concernant l'avenir de l'AGOA, un pacte commercial mis en place par les États-Unis dans les années 2000, qui favorise les échanges de marchandises avec certains pays africains, monnayant très peu de droits de douane. Un pacte qui a permis un boom des exportations de véhicules sud-africains, plus 500% en un peu plus de 20 ans. Brandon Cohen, porte-parole de l'Association nationale des concessionnaires automobiles.
Si Trump revient sur la participation de l'Afrique du Sud au sein de l'AGOA, cela affectera notre industrie nationale.
L'avenir de ce traité sera donc décisif pour l'industrie automobile sud-africaine, mais pour l'économiste Tantipayi, il y a également d'autres menaces avec ce retour de Trump au pouvoir.
Aujourd'hui, on ne peut pas savoir quelles seront les futures relations économiques avec les États-Unis. Mais moi, ce qui me préoccupe, ce sont les répercussions sur l'Afrique du Sud des politiques menées par les États-Unis dans son propre pays. Des droits de douane qui ne seront peut-être pas appliqués à l'Afrique du Sud, mais à d'autres partenaires commerciaux et qui pourront avoir une incidence sur les prix et les taux d'intérêt, avec un impact sur la finance mondiale qui nous affectera. Donc oui, l'inquiétude est là.
Une baisse des exportations sud-africaines pourrait aussi pousser des concessionnaires présents en Afrique du Sud à reconsidérer leur implantation dans le pays. Valentin Hugues, Johannesburg, RFI.
Merci à tous d'écouter RFI. Toutes nos informations, tous nos reportages disponibles pour les réécouter quand vous le voulez sur l'application RFI Pure Radio ou bien sur internet rfi.fr. Vous restez avec nous, on se retrouve dans une minute pour l'actualité africaine. À tout de suite.
Priorité.
Société Santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Demain.
Guerre contre la drogue, qu'en pensent les médecins ?
Jeudi.
Le mal du pays quand l'éloignement devient souffrance au quotidien.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité Santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI. Ce mardi sur RFI.
Où nous mènera la seconde révolution quantique ?
Autour de la question... Caroline Lachowski.
Question ouverte par et avec Alain Aspect, prix Nobel de physique, pour avoir démontré et expérimenté l'impossible, la non-localité et l'intrication quantique. Le professeur Alain Aspect est notre invité en direct autour de son ouvrage « Si Einstein avait su ».
Autour de la question, tout à l'heure à 14h10 TU sur RFI.